C'est l'heure de la revue de presse de Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Caroline.
Vous nous avez apporté des articles à lire dans la presse ce matin, puis d'autres plus fouillés que l'on pourra lire ce week-end. Et on commence avec la presse du jour et bien sûr à la une les commémorations du génocide du Rwanda ce week-end.
Mais c'est à la une de Libération et du Monde aujourd'hui, hein, pour qu'on n'oublie pas, titre Libé. Dans son dossier sur 6 pages, le journal décrit un pays hanté par ses fantômes. 25 ans plus tard, on découvre encore sous des habitations des charniers dissimulés. 25 ans plus tard, le Rwanda brûle encore les doigts des dirigeants français. C'est le constat que fait le journal Le Monde. L'événement est vu dans ses pages sous l'angle diplomatique. La France aux prises avec son passé. Le rôle de la France n'est pas clair. Pour connaître la vérité, une commission d'historiens a été formée hier. À sa tête, Vincent Duclerc. Il aura accès à toutes les archives de l'époque, toutes, même celles de la DGSE. Mais cette commission fait polémique, on l'appelle déjà une commission mort-née. Les meilleurs spécialistes du Rwanda en sont absents. Le Monde insiste également sur l'absence d'Emmanuel Macron lors des cérémonies. Mais un représentant du gouvernement français sera présent. En 25 ans, c'est une première.
Sur le Rwanda, toute la semaine, France Culture commémorait le génocide, la série documentaire, Les Pieds sur Terre. Les programmes sont bien sûr à réécouter en podcast sur notre site franceculture.fr ou à écouter demain soir en direct avec la fiction de Blandine Masson. Pour continuer, l'Europe donc. La revue Le Débat consacre ce mois-ci, Natacha, un dossier dense sur la politique européenne.
Et c'est un dossier qui est nourri de plusieurs analyses qui reviennent sur ces mutations, sur les dernières mutations de ces 10 dernières années. Alors tout d'abord, le texte de la journaliste Florence Autry. Elle décortique l'essai de Luc Van Middelaar intitulé « Quand l'Europe improvise ». De 2008 à 2018, les crises ont été nombreuses. Crise de l'euro, guerre en Ukraine, arrivée des réfugiés venus de Syrie, élection de Donald Trump, Brexit. Face à ces secousses, l'Europe s'est mise à improviser. En effet, en 2008, l'Union n'avait pas de protection économique pour protéger sa monnaie, pas de moyens militaires contre une guerre russo-ukrainienne, pas de plan de migration, d'immigration. Mais la politique européenne a changé de nature. Nous sommes passés d'une politique de la règle, dictée par les traités, à une politique de l'événement, dictée par l'impératif des situations.
Alors l'Europe a le sens de l'improvisation, mais quelle est son identité politique ?
Là, c'est précisément la question que pose l'historien Thomas Serrier dans son analyse « Un gouvernement des princes ». Pour lui, l'objet institutionnel européen reste de fait insaisissable à bien des égards. Il constate néanmoins un mouvement paradoxal. Alors que s'exprime un rejet croissant de Bruxelles, une forte demande d'Europe se fait aussi entendre. Les sondages montrent un regain d'adhésion qui atteint des niveaux proches de ceux des années 90, après la chute du mur. Dans un autre article, « Blues de l'Europe » de Paul Taylor, même constat, je le cite. « La construction européenne continuera sans doute à avancer par à-coups, au gré des crises, selon un modèle hybride, combinant des éléments de fédération avec une forte dose d'intergouvernementalisme. Elle ne sera jamais rectiligne comme un jardin à la française. Il n'y aura pas de grand soir fédéraliste. » Alors dans tous ces textes, dans tous ces points de vue, un point revient constamment, le Brexit. Il laisse une faille ouverte. Un après l'Europe est devenu pensable. C'est pourquoi il est urgent de repolitiser les enjeux de l'appartenance à l'heure où la possibilité de divorce rend l'UE à la fois plus fragile et plus démocratique.
Repolitiser les enjeux de l'appartenance, est-ce que la culture n'aurait pas son rôle à jouer dans tout ça ?
Et la culture, ce serait peut-être elle qui serait capable de donner un nouveau souffle à l'Union. Et pourtant, l'Europe est en panne de politique culturelle, c'est ce que nous dit l'enquête dans la revue Le Crieur. Face au populisme et au nationalisme qui grondent, la culture devrait être un enjeu crucial et symbolique. Alors pourquoi l'Europe ne s'y engage pas davantage ? Déjà, la notion est récente, ce n'est que depuis le traité de Maastricht, en 92, que la culture est devenue une compétence de l'Union. Ensuite, il y a la lourdeur bureaucratique et Bruxelles, la labyrinthique, et puis surtout, les budgets. Le programme culturel européen s'appelle Europe Créative. Son budget, 1,5 milliard d'euros sur 7 ans. Cela représente 0,15% du budget de l'Union. Alors, prenons l'exemple le plus connu, celui des capitales européennes de la culture. Caroline, est-ce que vous savez quelle est la capitale de la culture 2019 ?
Je crois qu'il y a une petite ville en Italie.
Matera, et aussi en Bulgarie, à Plovdiv, pardon pour l'accent. Voilà, pour chacune de ces villes, elles reçoivent de Bruxelles une enveloppe d'1,5 million d'euros. En réalité, ces manifestations coûtent près de 90 millions d'euros et l'enjeu majeur des capitales est plus économique que culturel. Déjà claudiquante, la politique culturelle de Bruxelles risque elle aussi d'être impactée par le Brexit. La Grande-Bretagne était l'un des plus importants contributeurs, le budget va donc baisser. Et dans ce contexte, difficile donc de définir une Europe de la culture aux axes forts.